Radio Okapi.
Félix Antoine Tshisekedi promet de faire de la RDC une puissance économique au cœur de l'Afrique s'il est réélu pour un second mandat lors des élections du 20 décembre. Il l'a dit ce mardi 14 novembre dans son discours sur l'état de la nation, le dernier de son mandat. Dressant un bilan largement positif de sa gouvernance, il promet en cas de réélection de consolider les acquis de ce premier mandat durant les 5 prochaines années. Attaque hier d'un convoi humanitaire de 8 véhicules à Fizi, au sud Kivu. L'attaque de ce convoi de l'ONG du consortium humanitaire CHACDD est attribuée au Mai Mai Yakutumba. Les 15 passagers enlevés ont été relâchés plus tard. Le réseau local de protection des civils, RLPC, à Uvira et Fizi, condamne cette attaque, tandis que l'administrateur du territoire de Fizi rassure sur les dispositions prises pour la sécurisation de tout le monde. Capitaine Anthony Mwalusha est l'invité de ce journal. Il revient sur l'attaque des ADF le 13 novembre dernier au village de Kichanga dans la chefferie de Watalinga. L'attaque des ADF intervient après plusieurs mois d'accalmie observée dans cette région du Nord Kivu. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de prononcer son tout dernier discours de son premier mandat sur l'état de la nation. Pendant 2h30, le président de la République a dressé un bilan largement positif de la gouvernance, tant sur le plan politique, économique, sécuritaire et social. Félix-Antoine Tshisekedi promet de faire de la RDC une puissance économique au cœur de l'Afrique s'il était réélu pour un second mandat lors des élections du 20 décembre prochain. Les grandes lignes du discours du chef de l'État avec Michel Kifindangoy.
D'entrée de jeu, le président de la République se dit préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi dans le Congo. Félix-Antoine Tshisekedi dénonce l'implication du Rwanda et des multinationaux dans la déstabilisation de la RDC pour l'exploitation illicite des ressources naturelles congolaises. Estimant qu'il est temps que la MONUSCO quitte le pays, le chef de l'État promet de s'investir davantage pour renforcer les capacités de l'armée congolaise. Pour lui, l'état des droits et les libertés politiques, notamment de la presse, sont des devenu effectif en RDC. Dans le souci de lutter contre l'impunité, Félix-Antoine Tshisekedi affirme poursuivre son plaidoyer pour la mise en place d'une justice transitionnelle et la création d'un tribunal pénal international en RDC. Au chapitre économique, le chef de l'État se félicite des efforts accomplis dans l'assainissement des secteurs miniers et forestiers, mais aussi dans l'augmentation de la capacité de production en électricité en RDC. La gratuité de l'enseignement a permis plus de 5 millions d'enfants à retrouver le chemin de l'école, souligne Félix-Antoine Tshisekedi. Côté infrastructure, le président de la République se félicite pour la construction de plus de 30 000 km de routes urbaines et de dessertes agricoles.
Et pour les 5 prochaines années, s'il est réélu, le président de la République promet de consolider les acquis de son premier mandat et de poursuivre les efforts de reconstruction d'un état de droit et une puissance économique au cœur de l'Afrique. Félix-Antoine Tshisekedi invite donc le peuple congolais à choisir entre poursuivre ce projet commun de reconstruction du pays ou repartir à zéro en s'exprimant librement par voie des urnes lors des élections du 20 décembre prochain. Félix-Antoine Tshisekedi est au micro de Michel Kifindangoy.
La paix et la sécurité dans la région, notamment à l'est de notre pays, demeurent cruciales pour maintenir cette croissance. Nous devons également étendre notre protection sociale pour réduire la pauvreté et les inégalités et renforcer l'intégration régionale pour accéder à de plus grands marchés. Je vous rassure que le gouvernement, que je félicite en passant, reste engagé dans cette vision qui est mienne, à créer cet environnement favorable aux investissements étrangers et soutenir l'innovation et les technologies modernes pour améliorer la compétitivité des entreprises congolaises. Je vous appelle à prendre une part active à cette transformation. Votre engagement est le socle sur lequel nous bâtirons un Congo plus fort et plus uni. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer.
Au sud Kivu, le réseau local de protection des civils, RLPC, à Uvira et Fizi, condamne l'attaque d'un convoi humanitaire de l'ONG du consortium humanitaire CHACDD hier lundi dans le territoire de Fizi. Le convoi constitué de 8 véhicules a été attaqué par des présumés combattants Maïmaï du groupe Yakutumba dans le village d'Itota Mukera. Selon des sources locales de ce réseau, 15 passagers à bord ont été emmenés dans la brousse avant d'être libérés. Cependant, les victimes ont été systématiquement dépouillés de tout et 3 véhicules incendiés. Fiston Goma.
L'incident s'est produit à 50 km au sud-ouest de la ville de Baraka, Fizi. Parmi les 8 véhicules, les 3 premiers ont été pris en embuscade, pillés avant d'être incendiés sur place à Lumbi, au niveau du village Itota. Tandis que les 5 autres derrière se sont arrêtés en entendant des tirs devant eux et sont retournés à Fizi Centre. Des tirs intenses ont été entendus depuis la zone de l'incident. Le commandant du régiment de FRDC dit avoir effectué une patrouille de combat dans la zone touchée. La source de sécurité signale que peu avant cette attaque, des leaders du groupe Yakutumba avaient distillé un message interdisant les ONG de circuler et d'accéder au camp de personnes déplacées sur le territoire de Fizi, déclarant qu'il n'y avait pas de guerre dans la région. Ces seigneurs de guerre fustigent les ONG humanitaires d'identifier des faux déplacés au profit des personnes fictives pour détourner les assistances humanitaires. En début de ce mois de novembre, un autre véhicule humanitaire de l'ONG AIDES a été intercepté, pillé et le personnel kidnappé au même endroit entre Fizi Centre et Mukera. D'Uvira, Fiston Goma Mayaba, la Radio Kapi.
De son côté, l'administrateur du territoire de Fizi encourage les acteurs humanitaires à poursuivre leurs activités en faveur de la population. Il affirme prendre toutes les dispositions pour la sécurisation de tout le monde. Allusion faite à l'attaque, bien sûr, survenue le lundi 13 novembre à Mukera, Itota. On écoute Sami Kalonji Badibanga, administrateur de Fizi, expliquer au téléphone de Emmanuel Elamejua Kabedi.
C'est lundi 13 novembre 2023 à 8h que le convoi des humanitaires et qui partait pour la mission d'identification dans les camps de déplacés internes de Lumbi a été attaqué au niveau du village Itota Mukera dans le secteur de Mutambala, groupement de Basimuku Masid. 3 des 8 véhicules sont brûlés par ces malfrats. Les kidnappés sont tous libérés. Cependant, leur téléphone, matériel de travail, argent reste entre les mains de ces pilleurs. Nous déplorons et condamnons pour la deuxième fois et au même endroit cet acte lâche de sabotage, d'intimidation commis sur nos amis humanitaires et qui interviennent dans notre territoire de Fizi. Réitérons notre engagement à sécuriser tout le monde et à ramener la paix sur toute l'étendue du territoire de Fizi. Aux amis humanitaires, courage, continuez à apporter de l'assistance à la population hospitalière de Fizi. Vous avez notre soutien et notre compassion.
Au Nord Kivu, une accalmie précaire est signalée depuis ce matin dans la région de Bambo et Kishishe, territoire de Rutshuru, après de violents combats toute la journée d'hier lundi. Les notables de la région confirment la réoccupation de Kishishe par le M23 à l'issue des combats. Une accalmie relative s'observe également sur l'axe Kibumba-Buhumba, territoire de Nyiragongo, tout comme sur l'axe Kiroliwe dans le Masisi. La société civile de Masisi exprime des inquiétudes au regard des renforts que recevrait le M23 depuis le Rwanda via le territoire de Nyiragongo jusque dans le Masisi. Sifamaguru.
D'après nos sources, les combats d'hier lundi à Kishishe et Bambo ont occasionné un mort et 5 blessés parmi les civils. La localité de Kishishe est à nouveau occupée par les rebelles du M23 alors que ces derniers s'étaient retirés de cette entité depuis le 21 octobre. Dans la même région de Bito, la situation humanitaire serait catastrophique. Environ 100 000 personnes déplacées se trouvent dans de très mauvaises conditions par manque d'assistance. Par ailleurs, sur l'axe Kibumba et Buhumba, en territoire de Nyiragongo, c'est toujours une accalmie relative ce matin. Pas de confrontation depuis 2 jours, à part les bombardements sporadiques entendus des parts et d'autres, indiquent nos sources. En territoire de Masisi, la situation n'est toujours pas rassurante. Dans la zone de Ruvunda et Karenga, 2 jours après les derniers combats. Après Kiloliwe, les rebelles viseraient toujours la localité de Mushaki et renforcent davantage leur position, s'inquiète la société civile. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Et puis en Ituri,
6 miliciens Maïmaï ont été neutralisés et 2 autres capturés. C'était au cours d'une opération des patrouilles de combat des FRDC lundi dans la forêt vers le village Mayouano dans la chefferie de Babila-Babombi, territoire de Mambasa. Selon des sources militaires de la 31e brigade basée à Mambasa, l'objectif de ces opérations est de démanteler ce groupe armé qui tente de déstabiliser la zone. Marcel Kizabiamungu.
C'est depuis le week-end du dernier que les FRDC sont en patrouille des combats dans la région de Mayouano où les groupes armés Maïmaï et les ADF sont très actifs. Selon les commandements militaires de la 31e brigade, les forces loyalistes se sont heurtées à un groupe de miliciens Maïmaï en errance. Il s'en est suivi un accrochage entre les deux forces pendant plusieurs heures. Des sources militaires avancent un bilan de 6 Maïmaï neutralisés, 2 autres capturés et 2 armes du type AK-47 avec munitions récupérées. L'armée indique que ces opérations se poursuivent dans cette région pour réduire la menace des groupes armés en vue de permettre à la population d'évacuer à ses activités champêtres. Les autorités militaires lancent un appel aux miliciens de déposer les armes et d'adhérer au processus de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation des DRCS. La société civile locale salue ces efforts de FRDC et les encourage à intensifier ses opérations de que de groupes armés en vue de garantir la sécurité de la population à cette période du processus électoral. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Journée mondiale du diabète, ce 14 novembre. En marge de cet événement, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a organisé une journée scientifique ce mardi. Cette activité a réuni les responsables du programme national de lutte contre le diabète, les représentants du grand laboratoire et les médecins en vue de mettre en place des mécanismes de sensibilisation pour les malades, la population ainsi que les prestataires sur le danger que représente cette maladie. On écoute Brigitte Anyangé, directeur adjoint au programme national de lutte contre le diabète. Elle est au micro de Merveille Assani.
Aujourd'hui, nous avons commémoré la 32e année de la Journée mondiale du diabète, qui tire son origine à partir de 1921, de la date de la naissance de celui qui a découvert l'insuline, qui est une molécule, mais c'est aussi un traitement très efficace contre le diabète. Et donc, la journée d'aujourd'hui, nous l'avions commémorée avec un thème qui a duré déjà 3 ans, sur connaître le risque et prévenir les complications. Et donc, cette journée, nous la vulgarisons à travers le média, à travers toutes sortes de communications, pour que les gens soient éveillés sur le danger qui nous guette tous, qu'est le diabète. Le programme national a prévu de doter les structures des intrants, les glucomètres et les bandelettes, pour permettre à chaque structure d'aller faire des campagnes de sensibilisation, de dépistage et d'orientation de ceux qui sont malades.
Le Conseil supérieur de la magistrature, CMS, procède au contrôle physique de 2500 nouveaux candidats magistrats à proposer à la nomination par ordonnance présidentielle pour l'année prochaine. Ces magistrats qui ont réussi au dernier concours de recrutement en 2022 sont invités à se présenter personnellement à l'extension du secrétariat permanent du CMS à Kinshasa du 22 novembre au 6 décembre prochain. Pendant ce temps, le CMS annonce aussi la fin de la formation du premier lot de 2500 magistrats retenus pour cette année et dont les affectations auront lieu incessamment. Tous ces magistrats expriment leur joie pour leur traitement et félicitent le Conseil pour avoir mené à bien toute la procédure. Quelles sont les modalités pratiques pour le deuxième lot des magistrats attendus? La réponse avec vous, Jeff Ngoy.
L'original ou la copie certifiée conforme au diplôme d'état, de licence ou de doctorat en droit délivré par les universités publiques ou privées agréées en RDC, universités étrangères, certificats de nationalité, cartes d'électeur, extraits de casier judiciaire sont notamment divers documents qu'il s'est d'apporter durant ce contrôle. 250 candidats magistrats seront contrôlés par jour. Ceux des provinces sont également concernés en ayant le délai prévu. Le CSM précise qu'après ce contrôle, chaque candidat retourne dans son milieu habituel en attendant d'être convoqué par le Conseil. Tout celui qui va s'absenter lors de ce contrôle se verra remplacé. Ce contrôle devra s'assurer ainsi de l'existence réelle et du maintien de l'ambition des candidats qui veulent œuvrer dans la magistrature, sachant que plus de 800 réservistes attendent pour pourvoir aux éventuelles vacances. Ils ne cessent de rappeler leur situation pour ne pas être oubliés, car passé 3 ans à partir de 2022, ils cesseraient d'être éligibles.
L'invité.
Les ADF ont attaqué le dimanche 12 novembre le village de Kichanga dans la chefferie de Watalinga. Cette attaque est la unième enregistrée ces trois dernières semaines dans le territoire de Bénio-Nord-Kivu et dans celui d'Irumu-Anituri. Ces attaques des ADF interviennent après plusieurs mois d'accalmie observée dans la région. Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation et que fait l'armée pour protéger la population civile? Élément de réponse avec le porte-parole des opérations Sokola 1, le capitaine Anthony Mwailushai. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Capitaine Anthony Mwailushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Des rebelles du ZADF ont attaqué le village Kitsanga dans la chefferie de Watalinga, territoire de Beni. Mon capitaine, cela fait plusieurs mois, même une année pour certaines contrées, où on n'a pas enregistré des attaques ADF. Mais les deux, trois dernières semaines ici, on constate qu'il y a récurrence ou récrudescence des attaques ADF dans la région de Beni. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation?
Vous êtes sans ignorer que d'abord, les opérations conjointes FRDC-UPDF ont commencé dans la chefferie de Watalinga. Nous avons mené les opérations contre plusieurs bastions des ADF dans les Watalinga. Nous avons récupéré Kambiadjoua 1 et 2. L'histoire retiendra ça. Et l'ennemi s'est déversé vers Rwenzori, où il a trouvé refuge dans la fameuse vallée de Mwalika, où nous avons encore nettoyé et l'ennemi a enregistré beaucoup de pertes dans son camp. L'ennemi est allé se réfugier du côté est, j'allais dire, des Rengi. Là, je fais allusion à Kainama, même la partie des Ituri. Nos FRDC ont planifié les opérations et ont bombardé la forêt de Tingwe où l'ennemi voulait encore s'installer. Et voilà ce qui expliquerait que l'ennemi quitte maintenant à Tingwe pour aller trouver encore refuge dans ses anciens bastions dans les Watalinga.
Si je comprends bien, quand l'armée récupère des bastions de l'ennemi et avance avec l'opération de traque, derrière, l'armée ne laisse aucun dispositif pour maintenir la situation.
S'il n'y avait pas de dispositif, c'est-à-dire qu'on n'allait même pas enregistrer les 8 morts côté ADF, mais ce sont les militaires qui ont travaillé partout où nous récupérons nos bastions. Nous laissons des dispositifs pour faire face au cas où l'ennemi arrivait.
On peut donc comprendre que le phénomène ADF dans la région des Beni et de l'Ituri est un cercle vicieux.
Cercle vicieux, je ne pense pas, mais je peux dire que c'est comme l'épidémie. Nous devons comprendre que la maladie peut venir facilement, mais il faut maintenant l'accompagnement et l'apport de tous pour la guérison. Donc, nous demandons à la population de, surtout de ne pas se décourager parce qu'en se décourageant, l'ennemi atteint son objectif. L'objectif de l'ennemi, c'est nous voir tous déplacés et laisser l'espace béni, vide.
Nous savons qu'actuellement, les opérations conjointes sont sous la coordination du commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord, dont vous êtes porte-parole. Qu'en est-il de ces opérations? Apparemment, il n'y a rien qui se mène comme opération sur terrain depuis plus ou moins un mois. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, je pense que en tant que population, vous avez votre façon de voir les choses. Et on ne peut pas mener du 1er au 30, du janvier au décembre, les opérations militaires. Donc, on mélange les opérations. Il y a les opérations de traque, mais aussi il y a d'autres opérations de démantèlement des réseaux des collaborateurs. N'oubliez pas aussi l'opération contre la guerre médiatique menée par les terroristes ADF-MTM. Toutes ces opérations se complètent. Croyez-moi, les opérations conjointe FRDC-UPDF évolue très bien et si vous voulez voir le résultat, allez poser des questions à la population de Rwenzori, à la population des Ringeti.
C'est évidemment cette même population des Ringeti qui lance SOS, mon capitaine. On dirait que UPDF, qui est votre collaborateur, observerait la situation et rien ne se passe sur terrain.
Personne n'observe la situation.
Est-ce que ce sont les, par exemple, les attaques qui ont été enregistrées en Ouganda, attaques ADF bien sûr, qui fragiliseraient les opérations conjointes FRDC-UPDF dans la région de Beni?
Au contraire, les attaques de l'Ouganda motivent l'armée ougandaise à nous appuyer, à comprendre que la menace est des deux côtés. Au moment où je vous parle, il y a une délégation des officiers ougandais qui séjourne chez nous, et c'est dans l'optique de voir encore et d'évaluer ce qu'on a déjà fait et ce qu'on peut encore faire pour donner la paix totale à nos deux peuples. Parce que la menace aujourd'hui, c'est à la frontière. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça concerne et les Congolais et les Ougandais.
Pour terminer, ces mêmes opérations dont on parle ont été annoncées dans la province de l'Ituri, notamment dans le territoire de Mambasa et aussi dans l'ouest de Oicha et Eringeti. Mais rien ne s'est fait sur terrain depuis depuis plus d'un mois de l'annonce.
Je ne pense pas qu'on a déjà annoncé des opérations dans le média.
Le déploiement avait été annoncé.
Exactement, je ne sais pas par quelle structure, mais nous ne devons pas planifier les opérations dans le média. Aidez-moi à ne pas tomber dans ces pièges. C'est qu'il est vrai, le travail s'est fait sur terre.
Capitaine Anthony Mwalushai, merci.
C'est moi qui remercie Radio Capi.